À l'émission Sous l'Olivier, nous vous proposons une émission de la série ayant comme titre « Marche en ma présence », animée par le regretté Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.
Nous débutons aujourd'hui une série d'émissions sous le titre « Marche en ma présence ». Ce titre est inspiré d'un texte connu du prophète Michée, un texte synthèse très intéressant qui décrit un peu le projet de Dieu sur l'homme. C'est dans Michée au chapitre 6e, verset 8e. On t'a fait savoir, homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi. Rien d'autre que d'accomplir la justice, d'aimer avec tendresse et de marcher humblement avec ton Dieu. Marcher humblement avec ton Dieu. Il s'agit là d'une invitation claire, répétée tout au long de la Bible de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Invitation d'abord à nous mettre en marche, à nous désinstaller, à partir, à prendre la route. C'est comme si le Seigneur nous disait à chacun, à chacune d'entre nous, « Lève-toi et marche », comme il le disait aux paralytiques. Nous sommes appelés par le Seigneur à devenir de belles créatures vivantes, mobiles, en devenir, en croissance. Marche en ma présence. Invitation aussi, en second lieu, à cheminer en présence de Dieu. Le cœur tout incliné vers lui, en suivant ses voies, ses chemins, ses sentiers. Une invitation à marcher avec lui, cherchant sans cesse à conjuguer notre agir à sa volonté et à son bon plaisir, un peu comme des amoureux qui veulent toujours être à l'écoute l'un de l'autre, toujours attentifs l'un à l'autre. On a décrit la personne spirituelle essentiellement en termes de veille. La personne spirituelle, c'est une personne éveillée. Le thème du veilleur à travers la Bible est probablement un des thèmes qui décrit le mieux ce qu'est la personne spirituelle. Cette attention, cette constante orientation du cœur vers Dieu, cet état continuel de veille, de vigilance, de recherche passionnée de Dieu, constitue vraiment la caractéristique essentielle du spirituel. Le spirituel est essentiellement un homme éveillé, un neptique, comme disent les pères grecs, quelqu'un qui se veut sans cesse en présence de Dieu, qui ne désire rien tant que de toujours trouver Dieu en toute chose et de toujours laisser Dieu être Dieu dans sa vie, de se laisser guider par lui, inspirer par lui, en le faisant le compagnon de tous les instants, en devenant pour lui le familier, l'ami intime, par le long apprivoisement de celui qu'on aime, de notre ami, au fil des fréquentations. J'ai rêvé en essayant de structurer ces émissions qui vont suivre. J'ai rêvé d'utiliser une image pour pas se perdre. Utiliser l'image du peintre. J'ai rêvé d'être peintre. Et ce que j'aimerais essayer de peindre, c'est précisément la figure, le visage de la personne spirituelle. Quels sont les traits caractéristiques qui permettent à une personne de marcher en présence de Dieu? Quels sont les éléments de base de l'éveil spirituel? Qu'est-ce qui peut nous aider à développer notre attention à Dieu dans notre vie? Comment arriver à laisser Dieu être Dieu pour nous? Comment marcher vraiment en sa présence? Vous savez ce que disait Jacob, « Dieu est là et je ne le savais pas ». Vous savez comment les disciples d'Emmaüs ne reconnaissaient pas le Seigneur qui cheminait avec eux? Ils le prenaient pour un étranger. Au cours des émissions qui vont suivre, je voudrais tracer à grands coups de pinceau, avec des couleurs différentes, essayer de tracer le visage d'une personne qui marche en présence de Dieu. On retrouve dans toutes les religions le problème de se maintenir en éveil, de se rendre présent à la divinité ou Dieu. Ce n'est pas propre à la religion chrétienne, à la religion catholique. Il existe même des pratiques traditionnelles que l'on retrouve dans toutes ces religions pour favoriser l'attention intérieure, le maintien en présence de Dieu. On connaît l'examen spirituel du conscient et on connaît la place prépondérante que cette pratique occupe dans la formation des personnes spirituelles. De quoi s'agit-il concrètement? L'examen spirituel du conscient consiste à s'arrêter quelques instants, 10-15 minutes, une ou deux fois par jour, pour faire le point de sa vie, pour relire son vécu, pour découvrir ce qui se passe, pour ainsi dire, veiller à ses affaires un peu comme un commerçant qui s'arrête à la fin de la journée ou au cours de la journée pour faire sa caisse. Saint François de Sales parle de l'examen du conscient comme d'une mini-retraite quotidienne. Ce temps d'arrêt, ce temps d'intériorisation vise le développement de l'attention profonde à Dieu. On peut y voir une activité de discernement qui vise précisément la découverte au cœur même du vécu, parmi les voix multiples qui se font entendre en nous, la découverte de la voix de Dieu qui nous appelle, qui nous invite au dialogue, qui nous invite à marcher en sa présence, sous sa conduite. Je voudrais commencer mon tableau que j'ai, si on peut dire, tracé grossièrement avec un fusain, tracé les grandes arêtes. Je voudrais commencer mon tableau comme font les peintres, en mettant une sorte de couche de peinture sur la toile pour servir de fond. Et cette toile de fond donnerait la couleur d'ensemble aux réflexions que j'aimerais vous proposer par la suite. Ce que je peindrais sur cette toile de fond, ce sont les couleurs de l'amour. Parce que, précisément, c'est l'amour qui met la personne en marche. Et c'est l'amour qui inspire la personne de marcher en présence de Dieu. Saint François de Sales le disait, c'est l'amour qui fait faire le voyage. Il sera très passionnant d'explorer ce monde immense, ce monde très riche de l'amour. Il faut s'y arrêter. Qu'est-ce qui explique que quelqu'un puisse se lancer à la recherche du Seigneur? Qu'est-ce qui explique que quelqu'un puisse vouloir découvrir sa volonté, son bon plaisir dans le concret de la vie, sinon d'une manière ou d'une autre, l'expérience d'une rencontre amoureuse avec le Seigneur? Seuls des êtres amoureux, séduits et saisis par le Seigneur, voudront vraiment le connaître, voudront vraiment qu'il soit compagnon de leur vie, désireront épier les moindres signes de son bon plaisir pour y répondre. L'amour constitue vraiment le moteur de la vie spirituelle. C'est lui qui désinstalle, c'est lui qui met en route, qui amène à couper les amarres et à prendre le large. Invitation donc à contempler profondément la mystérieuse réalité de l'amour, à commencer par l'amour humain. Dans les réflexions qui vont suivre, ce qu'il faut voir, c'est que l'amour qui s'enracine profondément dans nos instincts, l'amour se transforme quand émerge au fil du devenir de la personne l'intelligence. L'amour se transforme et l'amour se transforme également d'une manière encore plus radicale quand émerge dans l'expérience du devenir de la personne la vie spirituelle. Nous allons donc commencer à décrire, à s'entendre, à explorer ce qu'est la réalité mystérieuse de l'amour humain. On n'a pas fini de parler de l'amour. C'est un sujet inépuisable, une réalité vraiment mystérieuse qu'on n'a jamais fini de comprendre. Le mot amour est un mot primitif, un mot chargé. Chacun sait ce dont il s'agit quand on parle d'amour, jusqu'à ce qu'on l'interroge. La multiplicité des sens qu'emprunte le mot amour dit assez la richesse multiforme qu'il désigne. Du libertin au spirituel, est-ce que l'on parle toujours de la même réalité? Ce sera une expérience, une aventure passionnante que d'explorer cette réalité à la fois si proche et si étrange, réalité de l'amour dans notre vie. De nous à Dieu, de l'amour humain à l'amour divin, l'exploration nous réserve, on peut le soupçonner, bien des découvertes étonnantes. Thank you. Selon Freud, l'amour constitue avec le travail l'activité fondamentale de la personne humaine. Aimer et travailler, tel est le comportement normal de l'homme. On ne peut pas vivre sans amour. La vie tire sa valeur, son caractère précieux, de l'amour qui l'accompagne. Une valeur, c'est une réalité pénétrée, enrobée, si l'on peut dire, d'amour. Le fond de la joie d'aimer, dira Sartre, c'est de se sentir justifié d'exister. C'est ainsi que l'amour, en quelque sorte, nous définit. On ne sait qui l'on est que lorsqu'on sait qui on aime et comment l'on aime. L'amour colore tout. Il peut transfigurer toutes les situations les plus affreuses et revêtir de beauté les pires misères. Que cet amour vienne à manquer, la vie perd son sens et devient insupportable. Il y a tristesse à ne pas être aimé, il y a malheur à ne pas aimer, écrivait Chesterton. On le sait, on le devine, l'enfer, c'est de ne plus aimer. Vaut mieux mal aimer, s'aimer à tort et à travers, comme on dit, que de ne pas aimer du tout. Celui qui aime mal peut toujours apprendre, découvrir comment mieux aimer. Mais celui qui n'aime pas est perdu. L'amour humain couvre un large éventail de réalités. Il désigne au départ ce jeu complexe de très fortes attirances, d'élans impétueux qui poussent les êtres les uns vers les autres. Le bébé, l'enfant, vit littéralement de ce lien mystérieux qui l'unit à ses parents. Ce sont là les racines instinctuel de l'amour. Et à ce niveau, l'amour s'identifie aux pulsions sexuelles qui sont éminemment précieuses pour amener l'individu à s'ouvrir aux autres. L'instinct sexuel, avec toute sa force jubilatoire, peut être comparé aux fusées porteuses qui ont comme fonction, dans un feu d'artifice incomparable, de placer en orbite la navette spatiale. On peut y voir, avec Christian Bobin, le premier tressaillement de Dieu dans la jubilation du cœur. Évidemment, l'aspect instinctuel de l'amour est appelé, avec la croissance de la personne, à se transformer en sentiment, puis à prendre la forme d'une décision de bienveillance. L'amour humain, humanisé, c'est avant tout vouloir et pas seulement sentir. Pour les Hébreux, le mot hesed ne désigne pas un sentiment, mais une décision qui engage. L'instinct s'exprimant comme un besoin est fortement centré sur soi. Le sentiment, lui, est ouverture sur l'autre. Il est le besoin qui se transforme en désir et en recherche de réciprocité. Ainsi, la maturité de l'amour humain se reconnaît à sa permanence, même en l'absence du sentiment et de la réciprocité. On est alors dans l'ordre de la décision, de la liberté qui s'engage. Il y a donc une sorte de démarche qui va de l'amour digestif, si on peut dire, au départ, à l'amour réciproque et à l'amour oblatif. Plus que dans la rencontre des corps, l'amour se situe dans la rencontre des âmes, la rencontre intérieure. amorcée par la recherche du plaisir, l'amour au terme de ces transformations, débouche sur la gratuité qui rend vulnérable et expose au risque de l'échec et de la souffrance. On connaît ce qu'écrivait Jean Lacroix, un texte extraordinaire. Aimer, disait Jean Lacroix, c'est promettre et se promettre de ne jamais employer à l'égard de celui qu'on aime les moyens de la puissance. Et en refusant toute puissance, on s'expose au refus, à l'incompréhension, à l'infidélité. Se refuser toute puissance, c'est se présenter à l'autre totalement nu, sans armes ni armure. Se rendre vulnérable. Henri Nouwen décrit très bien cet état de vulnérabilité. Quand il écrit « caractéristique la plus importante », l'amour a besoin d'un désarmement complet. La rencontre dans l'amour est une rencontre sans armes. Et qui nous dit que le désarmement individuel n'est pas plus difficile que le désarmement entre les nations? Nous savons dissimuler nos couteaux et nos fusils, même au sein de la plus intime relation. Est-il possible de jamais rencontrer notre entière vulnérabilité? Quand un soldat s'assoit pour manger, il dépose ses armes, parce que prendre un repas signifie paix et repos. S'étend-il pour dormir, il est encore plus vulnérable. Table et lit sont les lieux de l'intimité où l'amour peut se manifester au sein de la faiblesse. S'aimer, c'est renoncer à toute forme de puissance et s'embrasser désarmé. La nudité physique devient alors le symbole de la vulnérabilité totale et de la disponibilité complète. Idéalement, tels sont les chemins de l'amour. Mais concrètement, par combien d'errance et de fourvoiement devons-nous passer pour apprendre à aimer? L'amour humain, avec ses yeux troubles et tendres, n'est-il pas souvent un véritable labyrinthe? Mais en tout état de cause, à quelque stade de maturation qu'il se trouve, l'amour humain porte en lui une essentielle insatisfaction. Il y a toujours dans l'amour une sorte de démesure, un défi lancé à tout ce qui peut le restreindre, qu'il s'agisse du temps ou de la mort. Il porte en lui un vœu d'éternité. Ce n'est pas pour rien que dans les poèmes ou les chansonnettes populaires, on a coutume de faire rimer amour avec toujours. Aimer, écrit Gabriel Marcel, c'est dire « Toi, tu ne mourras pas ». L'amour trouve sa grandeur dans ce vœu impossible. Est-elle juste l'interprétation étymologique du mot « amour » qui ferait venir ce mot de « amorce », alpha privatif, c'est-à-dire « ce qui ne connaît pas la mort » Quel paradoxe! L'amour humain apparaît comme l'importance suprême et en même temps comme impossible. Un proverbe espagnol dit ceci, « Les amours possibles sont pour les sots. Les sages ont des amours impossibles. » il faut insister sur le caractère d'insatisfaction qui semble constituer le cœur même de l'expérience d'aimer. Dans l'expérience humaine d'aimer, nulle possession ne saurait apaiser le désir. C'est comme si l'amour se trouvait davantage dans le désir que dans la possession. C'est comme si la personne aimée disait à l'amant « Je suis à toi non pas pour te rassasier, mais pour entretenir et pour creuser ta faim. » Paradoxalement, le prochain n'est jamais si proche que par une révélation où il se donne sans se laisser jamais saisir, écrivait Olivier Clément. Voulez-vous une vive illustration de cet étrange jeu de l'amour? Il n'est que de lire le roman d'Alexandre Jardin, Fanfan, avec une rare finesse. L'auteur décrit, dans l'enchantement même de la passion naissante, les multiples visages que prend l'insatisfaction, une insatisfaction cultivée jusqu'au désespoir. Plus que la peur et que la fuite qui sont propres aux amours adolescentes, c'est le caractère inaccessible, à jamais comblé, de l'amour qui retient l'attention. C'est l'absolu que recèle l'insatisfaction. Aimer pour vrai, c'est aimer toujours plus, aimer davantage, pourrait-on dire. Car ne pas vouloir aimer davantage, c'est déjà ne plus aimer, commente le Pervérion. La personne aimée semble échapper toujours dans une poursuite perpétuelle à la saisie de l'amant. L'autre nous arrache toujours à nous-mêmes en nous attirant sans cesse plus loin dans le mystère de son être.
Vous venez d'entendre « Sous l'olivier » avec Jean-Guy Saint-Arnaud, jésuite, prédicateur et auteur.